Alors bah, tout d'abord, je voudrais saluer la position courageuse, mais qui malheureusement était rare, d'Isabelle Attard. On aurait eu fort besoin de parlementaires de cette trempe. Du coup, son intervention me permet de vous épargner une introduction, parce que j'allais revenir sur les prorogations et très rapidement la transposition des principales mesures de l'état d'urgence dans le droit commun qui nous conforte dans l'idée de la trajectoire ultra-sécuritaire choisie par l'État pour lutter contre le terrorisme. Et j'en viendrai directement à mon propos, qui est de vous dire que ce régime d'exception appliqué durant 2 ans a eu un triple impact sur l'ensemble de la société française. Un impact sur l'état de droit, un impact sur les individus et un impact sur la cohésion nationale. Isabelle Attard est revenue sur quelques modifications qui avaient été introduites, mais il me semblait intéressant de revenir sur la première, celle qui est intervenue le 20 novembre 2015. Je parle de la modification de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. Sous le régime antérieur, ce qui pouvait déclencher une assignation à résidence ou une perquisition, c'était une activité qui s'avérait dangereuse. Et le 20 novembre 2015, on modifie de façon majeure cette loi en rendant possible l'assignation à résidence dès lors qu'il existe à l'égard d'une personne des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. De la même façon, la perquisition peut être ordonnée lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Et là, c'est le tournant radical, c'est un tournant radical dans notre droit. Pourquoi ? Parce que dorénavant, c'est l'intention qui est traquée, qui est pénalisée. Ce n'est plus un acte matériel qui est recherché, ce n'est plus une activité qui est recherchée. Il suffit d'une suspicion pour considérer qu'un individu peut être assigné à résidence ou perquisitionné. Et cette nouvelle formulation renvoie forcément à de l'arbitraire, puisque l'on peut faire n'importe quoi, n'importe qui. J'irai même plus loin en disant que le principe de la présomption d'innocence est effacé au profit d'une présomption de culpabilité. Et cette insécurité juridique, finalement, que l'on crée, est renforcée par la pierre angulaire de ce système arbitraire. Cette pierre angulaire, c'est la note blanche. En effet, il faut savoir que les ordres de perquisition et les arrêtés d'assignation à résidence reposent principalement, voire toujours sur ces documents qui sont non sourcés, non datés, non signés, qui rapportent des faits vagues, des lieux, des fréquentations. Souvent, on en a simplement des extraits dans les arrêtés d'assignation à résidence ou dans les ordres de perquisition. Et c'est lorsque les personnes inquiétées engagent un contentieux qu'ils découvrent l'intégralité de cette note blanche. Ce système arbitraire aboutit aussi au renversement de la charge de la preuve, puisqu'il appartient à la personne assignée ou perquisitionnée de faire la démonstration de la fausseté des affirmations péremptoires et non étayées contenues dans la note blanche. Et en d'autres termes, on demande à des individus de rapporter une preuve négative. Une preuve négative, pardon. Ce qui est un complet non-sens. Enfin, si on en parle à des étudiants en droit, ils considéreront ça comme une aberration totale, puisque le principe même de notre droit, c'est que celui qui allègue doit rapporter la preuve. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des libertés qui ont pu être bafouées à travers l'état d'urgence, qu'il s'agisse de la liberté d'aller et venir, du droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté de manifestation, etc. J'en viendrai directement plutôt au constat que ces milliers de perquisitions et ces centaines d'assignations à résidence, un constat de dégâts notables qui ont été causés dans de nombreuses familles. J'en arrive donc au second point, l'impact sur les individus. Et je me suis dit que plutôt que vous faire un exposé théorique, il était préférable tout simplement de vous rapporter quelques exemples tirés de notre expérience. En tant qu'association de lutte contre l'islamophobie, nous avons eu à traiter près de 450 dossiers liés à l'état d'urgence. Il faut savoir que notre mission principale s'articule autour d'une permanence juridique qui est chargée d'instruire en fait les plaintes émanant de personnes qui s'estiment victimes d'islamophobie ou de violation de leurs droits. Et je peux vous dire que notre permanence n'a pas arrêté de sonner. Et pour les avoir eus directement en ligne, je peux vous dire que nous avons eu des personnes qui étaient complètement sonnées, choquées par ce qui arrivait. Choquées, alors il y a eu un premier choc, et je tiens à le souligner parce que parfois on pense que peut-être nos concitoyens de confession musulmane étaient immunisés contre le choc des attentats du Bataclan. C'est un choc pour tout le monde de découvrir sur les images de BFM TV que Paris est à feu et à sang et que des personnes qui dînaient tranquillement ou qui s'en allaient voir un concert se sont retrouvées dans un carnage. Donc vraiment, je le souligne parce que je pense que beaucoup l'ont perdu de vue, que c'était un choc pour tout le monde, y compris pour la population musulmane. Et que dans ce contexte, on a même eu des personnes qui nous ont rapporté que lorsqu'elles ont vu au milieu de la nuit des personnes pénétrer chez elles, cagoulées, lourdement armées, elles ont même cru que c'était des terroristes qui s'introduisaient chez elles. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons des personnes qui n'acceptent pas d'avoir été assimilées à ces individus violents et sanguinaires. Nous avons des personnes qui cherchent à avoir des réponses auprès des tribunaux. Devant la juridiction administrative, en général, c'est très difficile parce qu'ils sont très accoutumés à la procédure écrite et donc ils sont peu ouverts à ce que les requérants puissent prendre la parole. On en a fait malheureusement l'amère expérience pour certains requérants. Mais pour vous donner des exemples un peu plus concrets, nous avons par exemple eu à traiter le dossier d'un couple qui a 4 enfants, dont 2 de 12 et 14 ans qui sont encore à leur charge et qui résident en Midi-Pyrénées. Et ce couple donc a été l'objet d'une assignation à résidence et d'une perquisition. Et leur affaire est vraiment l'exemple type d'un déploiement disproportionné des forces de l'ordre et des moyens mis à leur disposition. Alors imaginez vivre dans une petite commune rurale, et peut-être que leur malheur c'était qu'ils vivaient aussi certaines figures, disent les autorités, prônant le djihadisme, la violence, etc. Et donc, ils voient arriver une quarantaine de voitures, 2 hélicoptères, 70 à 100 gendarmes, plus un chien pour détecter la présence d'armes, d'argent ou de stupéfiants. Alors, imaginez le choc pour cette famille, mais aussi la commune. L'atteinte aussi qui est portée à votre honneur, à votre considération, puisque dans notre société, il n'y a jamais de fumée sans feu. Et le traumatisme donc pour les enfants qui sont présents, pour le couple, puisqu'ils n'ont pas d'antécédents. À côté de cela, il faut gérer aussi le régime très contraignant de l'assignation à résidence. Alors, pour vous dire, ce couple devait pointer 3 fois par jour. Il devait parcourir 48 km en voiture et cela générait par mois en frais d'essence 200 euros, étant précisé qu'il bénéficiait du RSA. Ce régime contraignant empêchait les enfants de pouvoir poursuivre leurs activités extrascolaires et même de pouvoir, pour leur mère, de continuer à prendre en charge la grand-mère et le frère qui résidait ailleurs. Alors, ils ont en revanche formé un recours contre l'arrêté d'assignation à résidence et le tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'arrêté, considérant effectivement que les allégations n'étaient pas circonstanciées, elles n'étaient pas étayées. Donc, si cette décision les a soustraits à ce régime très contraignant et leur a rendu un peu de leur dignité, elle n'efface pas le traumatisme, l'humiliation, les vexations et la réputation qui reste au sein de cette commune à leur propos. Alors, pour vous donner un autre exemple, il s'agit cette fois d'une dame que j'appellerai Madame D, qui a été perquisitionnée en Auvergne-Rhône-Alpes le 3 décembre 2015. C'est une femme qui travaille, qui est divorcée, qui a une petite fille atteinte d'une tumeur cérébrale et qu'elle prend en charge toute seule. Alors, Madame D donc, est perquisitionnée parce que, dit l'ordre de perquisition, elle réside dans un lieu dans lequel il existe des raisons sérieuses de penser qu'il est fréquenté par une ou plusieurs personnes dont le comportement constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publique. C'est tout ce qu'on lui dit. Bon, naturellement, elle est sous le choc, sa fille également. Et puis, elle va nous appeler, nous allons la mettre en relation avec l'un de nos avocats. Ils vont contester l'ordre de perquisition et en obtenir l'annulation. Et c'est à travers ce contentieux alors qu'elle va apprendre quels sont les principaux griefs portés à son encontre. Alors le premier, c'est son affiliation avec une association musulmane, parce qu'effectivement, bon, bah, sur ses temps de loisirs, elle participe aux activités d'une association musulmane. Le deuxième, c'est, alors il a été découvert lors de la perquisition, mais vous allez voir quelle découverte, des ouvrages religieux ont été découverts par les forces de l'ordre permettant de confirmer sa pratique rigoureuse de l'islam. Et là, je cite textuellement ce que j'ai lu dans le mémoire en défense. Il y a aussi une criminalisation donc, du culte musulman. Et enfin, et je pense que c'est là aussi le nœud du problème, cette dame occupe un poste sur un site international stratégique. Effectivement, c'est un site qui pourrait être considéré comme sensible par les services de renseignement. Simplement, cette dame, enfin, elle n'a rien à se reprocher et le tribunal administratif de Grenoble en a conclu de même. En fait, ce qu'on lui reproche, c'est qu'elle aurait un entourage dangereux. Ce ne serait pas elle, ce seraient ceux qui gravitent autour d'elle. Sauf que ceux qui gravitent autour d'elle, ils n'ont pas été inquiétés. Ils n'ont pas été assignés, ils n'ont pas été perquisitionnés, ils n'ont pas été convoqués à la police ou à la gendarmerie. Mais elle, elle a perdu son travail pour perte de confiance, elle a été licenciée pour perte de confiance parce que le préfet a appelé son employeur pour lui expliquer qu'elle constituait une menace pour son infrastructure. L'autre préjudice qu'il est intéressant de noter, c'est que le 5 janvier 2017, elle découvre un portrait d'elle qu'elle ne connaissait pas. Elle est décrite donc dans les médias comme une salariée en voie de radicalisation qui aurait été licenciée, une salariée sous influence djihadiste, etc., etc. Donc c'est aussi tout cela qu'ont vécu ces familles, et encore je vous ai cité de rares exemples, mais il y en aurait à dire également sur les violences physiques pratiquées, sur la fracture systématique des portes. Certaines ont même été ouvertes à base d'explosifs. Donc certains se sont donnés à cœur joie. Et ce qui est intéressant, pour revenir à ce que disait Isabelle Attard, en fait, nous avons eu deux types de remontées d'informations. On a eu des familles qui nous disaient on a eu affaire à des forces de l'ordre qui étaient tout à fait correctes et même qui étaient gênées. Qui étaient gênées parce qu'en arrivant, certainement, du fait de leur expérience, elles se rendaient compte qu'elles étaient au mauvais endroit. Voilà, donc ça c'est aussi une réalité. Et puis la seconde, c'est celle que je vous ai, décrite. Alors maintenant, l'impact sur la cohésion nationale, ça c'est peut-être un effet qui est moins connu. Et je dirais que l'avantage d'une association comme la nôtre qui est proche du terrain, c'est de pouvoir vraiment prendre le pouls de la société, d'être très rapidement informé de ce qui s'y déroule. Alors, tout d'abord, ce que je voudrais rappeler, je pense qu'on en convient tous, hein, c'est que la principale caractéristique de la population ciblée, c'est incontestablement la confession musulmane. Pourtant, plusieurs études démontrent que le facteur religieux n'est pas le facteur causal du basculement dans le terrorisme. Bien au contraire, l'analyse du profil des terroristes met en évidence un déficit d'éducation et d'accès à une religiosité bien vécue. Par exemple, l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic l'a répété à plusieurs reprises en affirmant que 90% de la motivation serait le fruit des trajectoires personnelles et que 10% reviendrait au mobile religieux. Mais attention, il reviendrait au mobile religieux à vocation strictement symbolique et d'autolégitimation. Et selon ces termes même, il parle de vernis. Il faut savoir également que le ciblage des citoyens musulmans dans les arrestations et les contrôles contribue à trois dynamiques destructrices. La première, c'est de les marginaliser en faisant une catégorie à risque, suspectée et discriminée de manière spécifique. C'est de légitimer le discours des recruteurs dans des groupes violents qui basent leur argumentation sur l'existence d'un Occident majoritairement islamophobe contre lequel il faudrait entrer en lutte armée. Et c'est enfin le développement d'une culture de la suspicion et de la délation. Et là, je vais m'en expliquer un peu plus exhaustivement. Pour nous, cela a aussi été un choc de découvrir que des personnes ont pu faire l'objet de ces mesures parce qu'elles avaient été dénoncées par des collègues de travail, par des voisins, par des membres de la famille, notamment au sein des familles converties, et parfois aussi par des ex-conjoints malveillants dans le cadre de procédures de divorce ou de garde d'enfants. Ce constat, ce n'est pas simplement le nôtre, c'est aussi celui du défenseur des droits, qui dans un avis de communiqué de presse durant l'année 2006, a fait savoir qu'il avait pu constater que dans 10% des dossiers traités liés à l'état d'urgence, les réclamants se plaignaient de dénonciations calomnieuses de la part de voisins, collègues de travail, etc. etc. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout parce que non seulement il y a eu une mise en cause de ces familles à travers l'état d'urgence, mais cette mise en cause est allée bien au-delà. Je vais vous donner un exemple. Nous avons par exemple une famille qui réside dans le Nord, qui n'a jamais été inquiétée par rapport à une assignation à résidence ou à une perquisition ou autre, mais qui a une petite fille de 5 ans scolarisée dans une école publique. Cela se passe durant le mois de Ramadan. Cela a son importance, vous allez comprendre pourquoi. Donc cette petite fille décide de ne pas collationner. Donc dans cette école, il y a une collation à 10h30 et elle ne veut pas collationner, elle dit « je ne peux pas » à sa maîtresse. Bon, la maîtresse décide de convoquer la mère pour savoir pourquoi la petite ne veut pas collationner, mais surtout elle lui demande si elle jeûne. Cette petite fille a 5 ans, hein. Donc je rassure tout le monde, le jeûne ne se pratique pas à partir de l'âge de 5 ans. Donc la mère dit naturellement que non, donc faites-la boire et manger, mais naturellement qu'elle ne jeûne pas. Il ne s'en arrête pas là, la directrice convoque la maman à nouveau. La maman répète ses dénégations. Apparemment, ça ne convainc pas l'établissement qui fait un signalement à l'inspection, qui fait un signalement au procureur de la République. On voit débarquer des policiers armés à l'école qui viennent auditionner la petite fille, qui venait mais elle n'était pas là, donc ils passent au domicile et ils emmènent la petite fille à l'hôpital pour pratiquer des examens médicaux. Naturellement, les examens médicaux établissent qu'il n'y a pas de problème de malnutrition ou d'autres problèmes. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Il va y avoir une enquête sociale. Et fort heureusement, les enquêteurs sociaux finissent par annoncer aux parents qu'on s'oriente vers un classement sans suite. Mais est-ce que vous imaginez ce qui s'est passé pour cette famille ? La mise en cause, enfin... Ce ne sont pas des parents légitimes parce qu'ils pratiquent le jeûne et comme ils sont musulmans, donc il se pourrait qu'ils forcent leur petite fille de 5 ans à jeûner. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes très préoccupés l'état dans lequel est notre société. En plus de l'individualisme qui empêche finalement toutes les composantes de la société d'être plus alerté que ça vis-à-vis de l'état d'urgence, parce que comme l'a bien souligné Isabelle Attard, alors nous, c'est vrai que nous travaillons sur l'islamophobie, mais voilà, nous avons naturellement constaté, on a pu aussi entrer en contact avec des militants de la COP21, que cela ne se limitait pas aux musulmans. Les militants syndicalistes ont également fait état que la répression avait été beaucoup plus violente durant l'état d'urgence. Donc, comme le disait aussi Sylvie Thénault par rapport à l'histoire, je veux dire, quand on a des textes trop larges avec des définitions trop vagues et générales, on peut faire entrer dans cette catégorie n'importe qui. Et d'où la... Sylvie Thénault posait la question de est-ce qu'il faut du droit et comment. Par expérience... Et parce que voilà, je suis juriste, je dirais que le droit a beaucoup d'intérêt, notamment pour nous obliger à rationaliser lorsque l'émotion est trop forte. Et en ce sens, il est nécessaire, mais encore faut-il qu'il ne soit pas instrumentalisé. Je vous remercie.